18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
C'est démagogique parce que quand vous êtes énarque et entouré d'énarques, expliquer que si l'État ne fonctionne pas, c'est la faute de votre formation. Je dirais que c'est assez spécieux.
Emmanuel Macron doit annoncer tout à l'heure aux plus hauts fonctionnaires français une réforme de fond de la haute fonction publique, loin de faire l'unanimité.
Et notamment cette mesure phare et symbolique, la suppression donc de l'École nationale d'administration, une promesse datant de la crise des Gilets jaunes.
Recevoir une dose de vaccin AstraZeneca n'est pas plus dangereux que de prendre la pilule par exemple ou faire un long vol en avion. Face à la défiance, les médecins doivent rassurer leurs patients et rappeler que le risque zéro n'existe pas.
Un Français sur trois qui buvait ou fumait déjà avant la crise a augmenté drastiquement sa consommation. Une nouvelle inquiétude pour les médecins qui redoutent cette hausse des addictions.
La jeune femme de Béziers qui projetait un attentat terroriste le week-end de Pâques, sans doute très bientôt mise en examen, elle voulait s'en prendre à une église et avait même commencé à fabriquer des explosifs.
Et puis quand une œuvre d'art se cache peut-être derrière un banal tableau sur le point d'être vendu aux enchères, on vous racontera cette histoire.
La Bourse de Paris est terminée ce soir en hausse de 0,57% à 6165 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Ça change demain.
Oui, nous avons une dégradation, Julien, qui arrive par l'ouest et le sud, avec des nuages et de la pluie. Mais bonne nouvelle, dans ce contexte bien gris et automnal, les températures, elles vont grimper demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un symbole, hein, comme Europe 1 vous le révélait dès ce matin. Emmanuel Macron va bien confirmer d'ici quelques instants qu'il supprime l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration.
Louis de Ragnel, le président, s'attaque à une institution créée en 1945 par le général de Gaulle qui voulait former les élites de l'après-guerre pour la reconstruction du pays.
Oui, le président s'y était montré favorable après la crise des Gilets jaunes avant d'y renoncer. Finalement, c'est décidé, l'École nationale d'administration, l'ENA, sera remplacée par une nouvelle école, l'ISP, Institut du service public. Emmanuel Macron souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps de l'État qui administrent aujourd'hui le pays, dont les plus connus sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le chef de l'État veut attirer des profils plus variés, venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, un nouveau tronc commun sera dispensé à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain, laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifique. Enfin, c'est un sujet très sensible. Emmanuel Macron s'attaque à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Et si cette réforme était adoptée avant la fin du quinquennat, eh bien, les hauts fonctionnaires seraient à l'avenir évalués de manière systématique et affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle de leur contrat.
Et alors pourquoi Emmanuel Macron fait-il cette annonce maintenant ?
Eh bien, parce que le chef de l'État souhaite montrer aux Français qu'il tire les premiers enseignements de la crise sanitaire, son premier retour d'expérience des dysfonctionnements qui ont été pointés du doigt. Il souhaite s'attaquer au mammouth d'une administration qu'il juge pas assez efficace, pas assez loyale, trop lente, trop puissante, trop endogène. Et surtout une administration qui, selon lui, prend trop peu de risques. Bref, un moyen aussi de se prémunir contre les attaques des oppositions sur la gestion de son quinquennat.
Merci Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Et on précise que pour que cette réforme soit adoptée avant 2022, il faudrait qu'elle soit débattue au Parlement avant juin de cette année. Compte tenu de l'embouteillage législatif, la fenêtre de tir est très étroite.
On rappelle qu'Emmanuel Macron a lui-même été élève à l'ENA, promotion 2004, dont est également issu le député Les Républicains. Julien Aubert. Ce dernier ne décolère pas d'ailleurs depuis cette annonce.
D'abord, c'est démagogique parce qu'on croit supprimer le problème en supprimant l'école. Mais comme on a besoin d'une école, on la recréera demain matin. C'est démagogique parce qu'Emmanuel Macron en est issu et donc il est le mieux placé pour savoir que cette école a fait d'énormes efforts pour s'ouvrir, mais qu'elle ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Vous ne ferez pas rentrer des gens de milieu modeste s'ils n'arrivent pas à Bac plus 5. Et le problème, il se situe bien avant, dès le bac, voire même dès le primaire. Troisièmement, c'est démagogique, parce qu'au moment où on discute de l'euthanasie, qui est une réforme anthropologique majeure, le président de la République il n'a rien à dire, sinon de dire que lui veut la fin de vie de l'ENA. Et puis c'est démagogique, parce que quand vous êtes énarque et entouré d'énarques, expliquer que si l'État ne fonctionne pas, c'est la faute de votre formation, D'abord, je dirais que c'est assez spécieux. Puis ensuite, je ne crois pas que lorsque M. Salomon a dérapé dans sa gestion médicale, on a accusé l'université de médecine.
Voilà, le député Les Républicains Julien Aubert, il était au micro Europe 1 d'Hélène Terzian.
Et on reviendra sur cette décision de supprimer l'ENA à partir de 18h30 avec nos débatteurs dans les grandes voies.
Julien Aubert qui l'évoquait également, l'Assemblée nationale a ouvert cet après-midi, a rouvert un débat passionnel sur le droit à l'euthanasie. C'est une proposition de loi qui a été déposée par le député Olivier Falorni sur la fin de vie dans les cas de maladies graves et incurables. La séance a commencé par une standing ovation pour le parlementaire, mais ce débat risque de ne pas aller à son terme faute de temps face aux milliers d'amendements déposés. La France vient de franchir le seuil de 10 millions de personnes ayant reçu une première injection de vaccin. Confirmation du Premier ministre cet après-midi.
Jean Castex, en déplacement dans un centre de vaccination en région parisienne, confirme que l'objectif, c'est désormais d'atteindre 20 millions le 15 mai, si on s'en tient au calendrier initial.
Au lendemain de l'avis de l'Agence européenne du médicament qui a redit, à propos d'AstraZeneca, que le bénéfice l'emportait largement sur le risque, l'Europe avance en ordre dispersé. L'Espagne et l'Italie décident de réserver ce vaccin aux plus de 60 ans, la Belgique aux plus de 55 ans, les Britanniques, eux, le déconseillent aux moins de 30 ans. En France, pour l'instant, c'est 55 ans, on verra si ça évolue.
Oui, en tout cas, Anne Le Gall, si l'on remet en perspective ces risques, on se rend compte qu'il y a dans notre vie de tous les jours d'autres facteurs qui peuvent, à beaucoup plus grande échelle, entraîner des thromboses.
Oui, les caillots sanguins inhabituels doivent être répertoriés comme un effet secondaire possible du vaccin, mais les experts insistent, ces thromboses sont extrêmement rares. L'Agence européenne du médicament a répertorié 222 cas, dont 18 décès, sur 34 millions d'Européens vaccinés. Le risque de thrombose est donc de 6 cas pour 1 million. À titre de comparaison, le risque de thrombose avec une pilule contraceptive de 3e génération est de 400 cas pour 1 million, c'est 60 fois plus. Et l'on peut aussi rappeler que lors d'un voyage en avion de plus de 8 heures, le risque de thrombose veineuse est de 250 pour 1 million, c'est 40 fois plus qu'avec le vaccin AstraZeneca. Ces données sont importantes pour comprendre que la balance bénéfice-risque du vaccin reste largement positive. Il y a beaucoup plus de risques statistiques de mourir du Covid que d'un éventuel effet secondaire du vaccin.
Précision signée Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Alors, on a beaucoup dit lors du premier confinement que les addictions avaient explosé. L'alcool, le tabac, les drogues, de mauvaises habitudes sont nées il y a un an.
Et pour certains, oui, elles ont perduré. Et quand on interroge les Français, ils sont nombreux à reconnaître qu'ils ont du mal, par exemple, à se passer de leur verre de vin le soir. Et beaucoup craignent d'être entrés dans une spirale infernale. Ils appréhendent d'ailleurs l'après, hein, Diane Berger.
Oui, parmi les Français qui consommaient déjà des produits addictifs, un tiers a augmenté les doses. C'est le cas, par exemple, de Félix, un étudiant en communication, installé à Paris, qui maintenant a un nouveau rituel le soir, 3 à 4 fois par semaine.
Je m'assois, je lance un film, je joue une bouteille de rouge, quoi, ou je me fais un petit gin tonic ou un truc comme ça. Qui sont en fait des trucs qu'on se dit pas grave jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous dise bah quand même mec, t'as bu un verre de gin tout seul, quoi. Les substances, on sait tous que c'est des trucs ultra addictifs.
Et vous envisagez d'aller voir un médecin peut-être pour vous en sortir ?
Je pense pas demander de l'aide à des médecins. Très honnêtement, je pense que j'aurais honte.
Et son cas n'est pas isolé. La faute au confinement successif et à une crise qui s'éternise, selon le docteur Olivier Ricobono-Soulier de l'association Addiction France.
C'est important de ne pas rester isolé. Il y a des centres d'addictologie un petit peu de partout en France, il y a des lignes d'écoute par rapport à ça. Il faut démystifier l'idée qu'en addictologie, il n'y a vraiment que des personnes avec des atteintes de dépendance physique, etc. On accueille dès les premiers questionnements.
Et pour lui, il est d'autant plus important de repérer et traiter cette addiction rapidement que même si on retrouve une vie sociale dans les semaines ou les mois à venir, ces problèmes de santé, eux, pourraient rester.
Merci beaucoup Diane Berger. Des nouvelles de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture dit aller mieux après son hospitalisation de 9 jours liée au Covid. « Je reprends des forces chaque jour », dit-elle. « Mes pensées solidaires accompagnent tous ceux qui souffrent » et elle exprime sa profonde reconnaissance au personnel soignant.
Demain soir, ce sera les vacances pour tous les élèves alors que cette semaine, faire la classe à la maison a relevé du casse-tête.
Et le CNED dit aujourd'hui avoir été encore victime d'une nouvelle cyberattaque. Retour à l'école le 26, seuls les collégiens et les lycéens poursuivront l'enseignement à distance.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal et on vous parle donc de cette jeune fille de Béziers soupçonnée d'avoir préparé un attentat terroriste le week-end de Pâques. Elle devrait être mise en examen dans la soirée.
Et Guillaume Bier, on en sait plus hein, sur son profil et sur ses intentions.
Oui, on sait désormais que les policiers ont notamment saisi un schéma, celui d'une église située près de chez elle, sans doute là qu'elle envisageait de passer à l'acte. C'est dans un cahier à spirale que la jeune femme avait ce schéma, ainsi que des notes manuscrites évoquant l'État islamique, évoquant aussi des projets d'action violente et une recette de fabrication d'explosifs. Elle possédait d'ailleurs tous les ingrédients pour faire du TATP, cet explosif artisanal déjà utilisé dans plusieurs attentats. On a aussi retrouvé chez elle une photo imprimée de la décapitation de Samuel Paty. Cette jeune femme qui n'allait plus en cours depuis 2 ans n'avait jusqu'ici jamais attiré l'attention des services de renseignement français, jamais été condamnée non plus. Ni sa mère ni ses 3 sœurs ne sont poursuivies. Elle est la seule de la famille à s'être radicalisée. En témoignent les photos de propagande djihadiste retrouvées dans son téléphone. Elle est donc présentée à un juge antiterroriste, association de malfaiteurs terroristes criminels, détention de produits destiné à fabriquer de l'explosif. Le parquet a demandé son incarcération provisoire.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Direction l'Espagne à présent avec l'histoire de ce tableau estimé 1500 euros mais dont la vente aux enchères a été stoppée in extremis.
Et pour cause, Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant en Espagne. Et pour cause, cette huile sur toile pourrait en fait valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher.
Oui, car il s'agirait d'un tableau du Caravage, le maître italien du clair-obscur. L'œuvre intitulée « Le couronnement d'épines » et peinte au début du XVIIe siècle devait être présentée aux enchères cet après-midi à Madrid. On l'attribuait à un peintre issu de l'école de l'Espagnol José de Ribera. Mais au dernier moment, le gouvernement espagnol la déclare inexportable. Le musée du Prado a apporté des preuves qui font penser que c'est bien un Caravage. Il s'agirait de Lecce Homo, un tableau perdu en 1659. Écoutez José Manuel Rodriguez, ministre espagnol de la Culture, interrogé par Europa Press.
Nous allons voir si c'est un Caravage, mais ça pourrait aussi être l'œuvre d'un disciple de Rivera. En tout cas, c'est une bonne décision, car c'est un tableau de grande valeur, et j'espère que c'est un Caravage. Nous avons réagi beaucoup plus vite que dans les années 70, lorsqu'un Caravage nous avait échappé pour terminer à Cleveland.
Oui, car en 1974, l'Espagne avait laissé filer vers les États-Unis le crucifiement de Saint-André, l'un des grands tableaux du maître italien. Alors aujourd'hui, en plus de bloquer la vente, l'Espagne va déclarer la toile bien d'intérêt public. Il faudra désormais attendre les résultats d'une étude technique et scientifique avant d'affirmer que c'est bien un Caravage. En tout cas, on ne sait pas s'il y avait déjà de potentiels acquéreurs, mais ce soir, ils sont passés juste à côté d'une très très bonne affaire.
Ah oui, dommage pour eux, Henri de Laguérie. Merci, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Et à propos de Barcelone, un carnet rose du côté de chez vous, Henri. L'attaquant international français Antoine Griezmann annonce la naissance de son 3e enfant, une petite fille prénommée Alba. Et le bébé est né un 8 avril, comme les 2 précédents enfants des joueurs du FC Barcelone.
Ouais. On voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo, Anissa Haddadi, un vendredi gris et humide au programme.
Oui, c'est un vendredi, Julien, qui annonce un week-end assez maussade, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est donc une dégradation qui arrive demain par le sud et par l'ouest. D'abord de la pluie sur les Cévennes demain matin et puis des averses sur le Bordelais, le Poitou-Charentes. Et puis cette perturbation va avancer au fil des heures pour atteindre le Grand Est dans l'après-midi. Bonne nouvelle, les températures, elles sont beaucoup plus douces. On aura jusqu'à 21 degrés demain après-midi à Bordeaux ou encore 18 à Paris.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. Europe 1.